Bonjour à toutes et tous. Merci de continuer à prier pour les personnes et toutes les familles en détresse. C'est par cette phrase que notre pasteur Jean-Haut a terminé le mail qu'il nous a envoyé lundi, le mail de la semaine, pour transmettre les annonces, les nouvelles. Et effectivement, plusieurs personnes dans notre église traversent une épreuve difficile. Dans ton mail, Jean-Haut, tu mentionnais nommément Hugo, qui n'est pas là ce matin, mais qui était hier au groupe de jeunes. Tu mentionnais Daniel. Tu parlais aussi de plusieurs jeunes qui sont en contact avec Gabin, avec sa famille, à Pontarlier. D'autres personnes vivent des situations difficiles, des temps d'épreuve depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Et qu'on soit directement concerné par l'épreuve ou que ce soit un membre de la famille, un ami, un proche. Ouais, je pense que notre communauté traverse, à travers ces personnes-là, des temps difficiles. Et ce matin, Jean-Haut, à travers l'exemple des murailles de Jéricho, a déjà pu encourager par la parole de Dieu les personnes qui traversent ces épreuves et un livre de la Bible aussi qui nous permet d'avancer dans ces temps-là. C'est le livre des psaumes, c'est l'expérience des croyants depuis des centaines d'années qui prient les psaumes dans les temps de difficulté. Et c'est encore le cas aujourd'hui pour nous. Les psaumes, c'est des poèmes, c'est des chants qui ont été écrits sur une période assez longue, certains dont on connaît les auteurs. Celui qu'on va lire ce matin, c'est un psaume de David. Ces psaumes, ces chants, ces poèmes qui ont été inspirés par Dieu et qui permettent aux humains que nous sommes d'exprimer devant Dieu nos émotions, nos tensions, nos états d'âme. On va cheminer ce matin à travers un de ces 150 psaumes, le psaume 109, qui est certainement pas le plus facile à lire. C'est un psaume dont généralement on retient surtout en première lecture le caractère dérangeant, voire choquant. Et ce matin, je vous invite à aller au-delà de cette première impression et de parcourir ce texte de David pour voir comment David a vécu et a traversé l'épreuve. Et un petit mot encore d'avertissement avant de rentrer dans le texte que nous allons méditer ensemble. Ce psaume ne présente pas une méthode ou une recette pour surmonter les épreuves, mais c'est le témoignage, l'expérience d'un homme face à l'épreuve et à la souffrance, et la manière dont Dieu est présent dans ces temps d'épreuve. Et je pense que si l'Esprit Saint qui a guidé la constitution de la Bible, la constitution de l'Ancien Testament, le recueil de ces 150 poèmes qu'on appelle les psaumes, s'il a permis que ce psaume 150, qui peut parfois nous déranger ou nous choquer, soit présent dans l'Écriture, c'est pour nous présenter ce cheminement de David qui peut faire écho avec ce que l'on ressent, ce que l'on vit, pour nous encourager. Et on découvrira aussi dans ce psaume que dans l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. Ce chemin que David a fait, nous ne le faisons pas seuls. Donc on va lire le texte en 4 fois progressivement dans la version du semeur. Alors, hop. Forcément, si c'est sur off, ça ne fonctionne pas. Les versets 1 à 5 du psaume 109. Au chef du cœur, psaume de David. Dieu, toi que je loue, sors de ton silence, car des gens méchants ont ouvert leur bouche pour me calomnier, et ils tiennent contre moi des propos menteurs. Ils m'entourent de paroles que la haine inspire. Sans cause, ils me font la guerre. Pour prix de mon amitié, ils m'ont accusé, alors que je prie pour eux. Ils me font du mal pour le bien que je leur fais. Mon amitié est payée de haine. Ces 5 versets permettent de comprendre la situation dans laquelle se trouve David, qui fait face à 2 problèmes. La haine qu'expriment ses adversaires et le silence de Dieu. David fait face à des accusations mensongères, à du harcèlement, à de la persécution, de la violence verbale. Des personnes qui étaient proches, qui étaient ses amis, l'ont trahi. L'accuse de différents... On n'a pas le détail des accusations. En tout cas, il est persécuté. Aujourd'hui, dans le monde, dans certains pays du monde, c'est encore une réalité pour des chrétiens, dans des pays où on ne peut pas ouvertement dire que l'on est chrétien. Peut-être que vous reconnaissez cette femme. Asia Bibi, une chrétienne du Pakistan, qui a été accusée en 2009 de blasphème contre l'islam. Et au Pakistan, il y a une loi depuis 1986 qui punit de mort le blasphème. Et c'est une manière très facile, en fait, pour lorsque l'on a un différend avec quelqu'un, lorsque cette personne est chrétienne, de le permettre qu'elle soit mise en prison, voire qu'elle soit condamnée à mort. Il y a une mobilisation internationale massive qui a permis qu'elle soit finalement acquittée, libérée. Des prières, de nombreuses personnes, des campagnes de prières relayées notamment par Portes Ouvertes. Dieu est intervenu, a permis sa libération, mais cette loi est toujours en vigueur au Pakistan. Donc oui, certains de nos frères et sœurs dans le monde vivent cette persécution, cette violence verbale. Mais il n'y a pas forcément besoin d'aller aussi loin que le Pakistan. Ici aussi, en France et dans notre Église, il peut arriver que lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur, décide de devenir disciple de Jésus, sa famille manifeste son opposition très fortement. Hugo n'est pas là, mais en tout cas, il en parle assez ouvertement. Je pense que c'est quelque chose qu'il a vécu et qu'il vit encore. Face à cette situation, David fait le constat que Dieu est silencieux. C'est une mise à l'épreuve de la foi de David, qui se sent désemparé, acculé. Et je pense que ce sentiment d'être désemparé, acculé par l'épreuve, ici c'est un cas particulier de violence verbale, d'accusation mensongère, mais ça peut concerner d'autres types d'épreuves. La maladie, les conflits conjugaux, lorsque des couples sont en tension ou se séparent, un environnement toxique au travail, comment réagir dans une telle situation? Pour voir cela, nous pouvons lire la suite du psaume. C'est cette partie-là qui surprend ou qui peut choquer. Les versets 6 à 20. Désigne un méchant pour qu'il soit son adversaire, qu'un accusateur se tienne à sa droite, que lors de son jugement, il soit déclaré coupable et que sa prière serve à le condamner, que ses jours soient abrégés et qu'un autre prenne sa charge, que ses fils soient orphelins et que sa femme reste veuve, que ses enfants soient errants, qu'ils mendient leur pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier prenne tout son bien, que des étrangers ravissent le produit de son labeur, qu'il n'y ait personne qui lui manifeste de la bienveillance et qui ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que son nom disparaisse avec ses enfants. Que l'Éternel se souvienne de la faute de ses pères, que les fautes de sa mère ne soient jamais effacées, que l'Éternel se souvienne toujours de leurs crimes, que leur souvenir soit extirpé de la terre. Car il n'a jamais été bon envers les autres, et il a persécuté le malheureux et le pauvre, l'homme au cœur brisé, jusqu'à le faire mourir. Il aimait maudire, la malédiction viendra le frapper. Il refusait de bénir, la bénédiction fuira loin de lui. Puisqu'il endossait la malédiction comme un vêtement, qu'elle le pénètre comme ferait l'eau, et qu'elle entre en lui jusque dans ses os comme ferait l'huile, qu'elle l'enveloppe comme un vêtement, comme une ceinture sans cesse attachée autour de ses reins. Que ce soit ainsi que l'Éternel paye mes accusateurs et ceux qui me calomnient. Pour comprendre, le sens de cette deuxième partie du psaume, il y a une question importante à laquelle il faut répondre. Qui est en train de parler ici? Au verset 20, qu'on voit tout en bas, la question ne fait pas de doute, la réponse ne fait pas de doute, c'est David qui demande à Dieu d'intervenir contre ceux qui le harcèlent. Mais dans les versets d'origine, dans les versets qui précèdent, qui parle? Est-ce que c'est David qui maudit ses adversaires? Et ce sont les adversaires qui sont la cible de ces malédictions? Ou bien est-ce que David rapporte à Dieu les paroles de ses adversaires? Et en fait, c'est David qui est la cible de ces malédictions. Et c'est sûr que selon la réponse qu'on apporte à cette question, le sens des versets est très différent. Dans la première option, qui est peut-être la lecture la plus naturelle quand on lit le texte, on voit David qui déverse sa colère, qui déverse sa haine contre ses ennemis. Il appelle toute une série de malheurs sur eux, ce qu'on appelle aussi des imprécations, un terme un peu ancien, mais ce qu'on appelle des psaumes d'imprécation. Il y en a d'autres dans le recueil des psaumes. Et quand on lit et quand on comprend le texte de cette manière-là, ça ne peut que nous choquer. Comment accorder ça avec l'enseignement de Jésus en Matthieu, qui dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». À tel point que cette partie-là du psaume 109, elle a été enlevée dans la liturgie catholique, où les psaumes sont lus régulièrement. Ces versets-là ont été retirés après le Concile Vatican II, parce que ça paraît tellement choquant, en fait, de lire ces paroles-là. Mais si on lit dans ces versets-là le fait que David présente à Dieu les accusations dont lui-même est victime, en fait, David se contente au verset 20 de demander à Dieu d'agir selon sa justice. C'est pas David qui maudit ses adversaires. Et certaines traductions de la Bible, alors peut-être que si vous avez lu le texte sur vos Bibles, notamment la traduction français courant ou Parole de vie, choisit cette lecture-là, cette interprétation, et il rajoute, pour éviter toute ambiguïté, il rajoute des mots au début du verset 6. Au début du verset 6, dans ces Bibles-là, on a rajouté les mots « ils disent de moi, ouvrez les guillemets ». Voilà. Mais c'est des mots qui ne sont pas dans le texte hébreu. Hein. Comme quoi, c'est une petite parenthèse, c'est toujours bien de lire les textes bibliques dans plusieurs traductions, ce qui est, avec aujourd'hui les applications sur smartphone ou sur Internet, très facile. Alors de très bons théologiens, de très bons biblistes, estime que la bonne lecture, c'est la première lecture, celle dans laquelle c'est David qui remplit de colère et déverse son cœur devant Dieu. Et de très bons biblistes, de très bons théologiens estiment que la bonne lecture, c'est la deuxième, celle où en fait David présente à Dieu les accusations dont lui-même est victime. Alors moi, je vais pas vous dire quelle est la bonne interprétation. À titre personnel, de ce que j'ai lu, les arguments en faveur de la deuxième option me semblent assez convaincants, sans que ce soit pour autant une manière de gommer ce qu'on peut trouver dans d'autres psaumes, mais dans ce psaume 109, ça me paraît assez convaincant. Alors cette question est importante, et ça paraissait difficile de lire ce psaume sans évoquer ce point-là, mais ce n'est pas le point principal, je pense, de savoir qui parle. En tout cas, dans le cheminement et dans la méditation que je vous propose, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de constater, me semble-t-il, la place centrale qu'occupe dans les pensées, dans les paroles, dans la prière de David, les causes de sa souffrance, les causes de sa détresse. C'est une place obsédante de l'épreuve. David est pleinement immergé dans cette situation. Et lorsqu'on traverse l'épreuve, on ne pense qu'à ça, d'une certaine manière. Ça revient sans arrêt, dans les pensées, dans les discussions, dans les agendas. Dans sa prière à Dieu, David parle longuement et de manière détaillée de ce qui lui cause cette souffrance. Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous? Alors si on retient la première option de lecture, clairement, ce n'est pas un exemple à suivre si on estime que David a maudit ses ennemis. lire ce texte, ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à faire la même chose. Mais ce qu'on peut retenir, si on choisit quand même cette lecture-là, c'est qu'il est légitime d'exposer notre colère devant Dieu. Paul dit, hein, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. On peut être en colère légitimement dans certaines épreuves. Épancher notre cœur devant Dieu, ne pas retenir ce qui pèse au-dedans de nous. Et si jamais notre épreuve, elle est liée à l'action mauvaise d'autres personnes, ce qui peut arriver, je pense que ce texte-là nous invite à ne pas nous-mêmes exercer la justice, à ne pas vouloir nous venger, à ne pas vouloir rendre la monnaie de sa pièce à la personne qui nous cause du tort. Mais remettre cela à Dieu. Remettre cela à Dieu. Et si on opte pour la deuxième lecture, David qui présente les paroles dont il est victime, dont il est la cible, je pense que ce psaume nous encourage à verbaliser, à expliciter ce qui nous accable et à souligner à quel point l'épreuve que l'on traverse est éloignée du projet initial de Dieu, du projet de bénédiction de Dieu pour ses créatures, à quel point l'épreuve qu'on traverse, que ce soit la maladie, que ce soit la persécution, que ce soit des relations compliquées au sein du couple, que ce soit des relations compliquées au travail, combien cette situation, elle est loin du shalom que Dieu a prévu pour sa création. Dieu n'est pas lassé de nous entendre parler de nos problèmes. Au contraire, il attend que nous lui en parlions. Là, il y a près de la moitié du psaume, David parle du problème qu'il rencontre. Nous pouvons ouvrir notre cœur à Dieu. Les causes de l'épreuve occupent nos pensées, c'est ce qu'on vient de lire dans cette section. Nous sommes plongés dans l'épreuve et ça a des conséquences sur notre vie, sur notre personne. Et c'est ce que David exprime dans la troisième partie du psaume, que nous lisons maintenant, les versets 21 à 25. « Et toi, Éternel, Seigneur, interviens en ma faveur pour l'honneur de ton saint nom. Toi dont l'amour est si bon, viens me délivrer. Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est déchiré au-dedans de moi. Comme l'ombre qui s'étire, je m'évanouis. Comme un insecte nuisible, je suis pourchassé. Mes genoux sont affaiblis par l'effet du jeûne et mon corps est amaigri. Je suis pour ces gens un sujet de raillerie. Dès qu'ils m'aperçoivent, ils secouent la tête. » Dans cette partie du psaume, le focus passe de la cause des épreuves aux conséquences sur la vie de David. Et cette description, elle nous prend aux tripes. Mon cœur est déchiré. Je m'évanouis comme l'ombre. Mes genoux sont affaiblis. Je suis un sujet de raillerie. David se plaint. Et la plainte est tout aussi légitime que la colère. Je connais certaines personnes, et vous en connaissez peut-être, qui ont parfois tendance à se plaindre assez facilement. Mais il y a d'autres personnes, au contraire, qui estiment que se plaindre, c'est pas une bonne chose, parce qu'il y a toujours pire. Il y a des gens qui vivent des choses plus graves que ce que je vis, donc je vais pas me plaindre, on se plaint pas. Ou alors, on peut éventuellement se plaindre quand on parle à des amis, mais se plaindre devant Dieu, non. Se plaindre devant Dieu, non, Dieu, voilà, je peux le louer, l'adorer, mais me plaindre devant Dieu. Ici, David n'hésite pas une seconde. Il ne se retient pas. Il se plaint. Il se lamente. Il se lamente de l'état dans lequel il se trouve en raison de l'épreuve qu'il traverse. Et nous pouvons aussi légitimement dire à Dieu les effets de l'épreuve sur notre corps, sur notre morale, sur notre psychisme, peut-être aussi sur notre foi. Quand on a des doutes, quand il y a des questions qui surgissent dans l'épreuve et auxquelles on a du mal à répondre. Dieu n'est pas lassé d'entendre nos plaintes. Il n'est pas lassé d'entendre nos lamentations et nos doutes. Il est prêt à les accueillir. Un psaume qui se concentre jusqu'à présent sur la situation de détresse, sur les effets sur la vie de David, Dieu qui est silencieux, qui ne semble pas intervenir. On a un sentiment d'oppression. Est-ce qu'il y a une voie qui permet d'aller au-delà de la colère et de la plainte, qui sont légitimes, normales? Je vous invite à lire la dernière partie du psaume, les versets 26 à 31. « À l'aide, éternel mon Dieu, sauve-moi dans ton amour. Que mes ennemis puissent reconnaître que c'est toi seul, éternel, toi seul qui as fait cela. Ils peuvent maudire, toi tu béniras. Ils s'élèvent contre moi, mais toi tu les couvriras de honte et ton serviteur sera dans la joie. Que ceux qui m'accusent soient couverts de déshonneur, qu'ils soient revêtus de honte comme d'un manteau. Je célébrerai l'Éternel à pleine voix et je le glorifierai parmi les foules nombreuses. Car il s'est tenu aux côtés du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnaient. » Ici, le focus de David passe sur Dieu et sur un aspect particulier de Dieu, son amour. « Sauve-moi dans ton amour. » Et déjà au verset 21, « Toi dont l'amour est si bon. » C'est cet amour de Dieu que rappelle David, c'est cet amour de Dieu auquel il s'accroche, et c'est cet amour de Dieu qui va ouvrir un chemin pour aller plus loin que la colère et que la lamentation. Alors vous savez sans doute que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il y a quelques mots d'hébreu qu'on connaît tous. Dites-moi-en quelques-uns. Shalom. Alors celui-là je vais en parler, mais pas tout de suite. Alléluia. Amen, Hosanna, ça c'est des mots qu'on arrive à traduire assez bien. Alléluia, louer l'Éternel, Hosanna, sauve. Mais il y a des mots hébreux qu'on a du mal à traduire avec un seul mot en français. Mais comme on traduit, voilà. Il faudrait les traduire par des phrases. Et parmi ceux-là, il y a le mot que vous m'avez donné, shalom. C'est un mot que Chantal aime beaucoup. Hein. Shalom, je sais pas, est-ce que tu veux nous dire ce que pour toi ça signifie, shalom? Est-ce qu'on le traduit par paix? Mais c'est plus que ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc, en fait, il faudrait faire des phrases avec 20 mots pour... Voilà. Ce que dans la Bible, on parle de shalom, c'est... Bah, tu dis plénitude, bien-être, harmonie... Et le mot qui est traduit dans ce psaume par « amour », c'est un mot un peu du même type que « shalom », un mot qu'on ne peut pas traduire. Quand j'ai, à la maison, j'ai un dictionnaire d'hébreu et d'araméen biblique, quand j'ai regardé ce que ce mot signifiait, donc c'est le mot « chesed ». C'est le mot « chesed ». Alors celui-là, vous pouvez le retenir comme « shalom », il y a peut-être comme ça, 5-6 mots hébreux qu'on peut connaître, notamment ceux qui sont beaucoup plus riche, beaucoup plus, dont le sens est beaucoup plus riche dans la langue d'origine que ce qu'on traduit en français. On le traduit par amour, mais dans les dictionnaires, on nous dit ce terme-là ne peut pas être traduit simplement dans les langues romanes, dans nos langues à nous. Ça signifie amour, mais c'est plus que ça. C'est amour fidèle, amour bienveillant. Amour qui fait grâce, un amour qui va au-delà des sentiments, un amour qui se manifeste par un attachement plein de bonté. On peut presque faire un peu le parallèle avec peut-être un mot grec qu'on trouve dans le Nouveau Testament, qui c'est agapé. Voilà, chesed. Dieu est plein de chesed, de cet amour bienveillant, de cette bonté. Et rappeler ça, pour David, ça change la perspective qu'il a à la fois sur ses ennemis, mais aussi sur sa situation, sur lui-même. Au verset 27 à 29, je vais le réafficher, On voit que les ennemis sont toujours là. Les ennemis n'ont pas disparu. C'est pas parce que David fait appel à la bonté, à l'amour de Dieu, que sa situation se résout de manière instantanée. Faire appel à Dieu, à son amour, ne revient pas à nier la réalité de l'épreuve, mais c'est affirmer que cette épreuve n'a pas le dernier mot. Et je trouve ce début de verset 28 vraiment extraordinaire. Ils peuvent maudire, mais toi, tu béniras. Oui, il y a des ennemis qui me font du mal, mais toi, tu béniras. L'épreuve n'est pas définitive et Dieu intervient en son temps. Se rappeler de l'amour de Dieu, ça change aussi la perspective de David sur lui-même. Au verset 30, « Je célébrerai l'Éternel à pleine voix, je le glorifierai parmi les foules nombreuses, car il s'est tenu aux côtés du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnaient. » Alors il n'est pas clair que lorsque David dit « il s'est tenu aux côtés du pauvre », il parle de lui-même. David fait plutôt une généralisation. Et je pense qu'ici, il affirme une vérité générale. Dieu se tient aux côtés du pauvre, du miséreux, du nécessiteux. David affirme la recette de Dieu, mais que l'épreuve qu'il traverse n'est pas terminée au moment où il affirme cela. L'épreuve de David n'est pas terminée quand le psaume se conclut. Mais en rappelant cette bonté de Dieu, cet amour bienveillant de Dieu, David retourne dans l'état d'esprit qui était le sien au début du psaume, lorsqu'il disait « Je te loue ». Vous vous rappelez le verset 1 ? « Dieu que je te loue, Dieu de ma louange, sors de ton silence ». La louange qui s'était interrompue au verset 1 par le rappel des causes de l'épreuve, de l'effet sur David, la louange reprend à la fin du psaume. Dieu ne se lasse pas qu'on fasse appel à lui et à son amour bienveillant. Alors je disais en introduction que ce cheminement entre les causes de l'épreuve, les effets de l'épreuve sur nous, le rappel de l'amour de Dieu, ce chemin on ne le pratique pas tout seul. Pourtant ici, David semble bien seul dans ce psaume, juste à la fin où il dit « Je te louerai avec la grande assemblée » ou avec plutôt les foules nombreuses. En réalité, peut-être que vous l'avez perçu en lisant ce psaume, il y a une figure qui se cache dans ce psaume 109, en filigrane. Je vais vous lire quelques extraits du psaume, vous me dites à qui ça vous fait penser. « Des gens méchants ont ouvert la bouche pour me calomnier. » Pour prix de mon amitié, ils m'ont accusé. Ils me font du mal pour le bien que je leur fais. Mon cœur est déchiré au-dedans de moi. Je suis pour ces gens un sujet de raillerie. Dès qu'ils m'aperçoivent, ils secouent la tête. À qui est-ce que ces cinq phrases, ces cinq versets du psaume 109 vous font penser ? Jésus. Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Jésus qui a vécu la trahison d'un ami, qui a vécu l'angoisse, la souffrance injuste, qui s'est lamenté devant son Père, qui a porté la croix et qui avance à nos côtés. Dans les épreuves que nous traversons, nous ne sommes pas seuls. Jésus est à nos côtés. Jésus, c'est la recette de Dieu incarné. C'est le shalom de Dieu incarné, mais dans ce psaume-là, cet amour bienveillant, cet amour fidèle, cet amour qui fait grâce, c'est Jésus qui l'incarne de manière parfaite. Et nous pouvons compter sur la présence, l'appui de Jésus-Christ, sur le chemin qui passe de l'épreuve à ses conséquences dans nos vies, au rappel de l'amour de Dieu. Et ce chemin qu'on voit se dessiner dans le psaume 109, c'est pas quelque chose qu'on vit, je pense, une fois, comme si c'était une sorte de marche triomphante pour sortir de l'épreuve. Même si c'est souvent comme ça que, personnellement, j'ai lu les psaumes. Souvent, les psaumes, ce qu'on voit dans le psaume 109, on le voit dans d'autres psaumes, le désespoir, l'appel à Dieu, et à la fin du psaume, d'un coup, une note d'espoir, une note positive. Je pense pas que c'est quelque chose qui soit, une fois pour toutes. Je pense que ce cheminement intérieur, cette prière, elle peut se vivre chaque jour. Chaque jour. En temps de détresse. Lorsqu'on est au cœur de l'épreuve, c'est peut-être même chaque heure qu'on a besoin de vivre ça. Chaque minute, peut-être. Ouais, je pense à Aïna, sur son fauteuil. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler, il ne peut plus manger. Je pense que je ne peux pas me faire son porte-parole, mais je pense que ce cheminement-là, c'est quelque chose qui peut être à plusieurs reprises dans la journée. On constate la situation dans laquelle on est, et on se rappelle, et c'est ça qui est impressionnant, les frères et sœurs qui traversent l'épreuve et qui nous encouragent. Parce que, ouais, ils vivent de manière peut-être plus intense encore cet amour bienveillant de Dieu dans leur vie. Et pour ceux qui ne traversent pas l'épreuve de manière aussi intense ou qui sont peut-être moins, pas confrontés aussi directement, je pense que ce psaume nous permet d'orienter aussi notre prière. Jean, je reviens à ce message que tu nous as envoyé en début de semaine. Tu nous encourages à prier pour les personnes, les familles en détresse. Que ce psaume nous aide aussi à orienter nos prières. Prier pour nos frères et sœurs, pour qu'elles puissent ouvrir leur cœur devant Dieu, se rappeler de son amour bienveillant et fidèle, avec l'assurance de la présence de Jésus-Christ à leur côté. Je vous invite à la prière. Oui, notre Père, tu connais chacune des personnes qui traversent des épreuves dans notre Église, dans notre communauté, auprès de nos proches, dans des connaissances peut-être plus éloignées. Nous avons parlé de Daniel, de Hugo, de Gabin, d'Aina, d'autres personnes qui souhaitent pas forcément partager largement les situations qu'ils traversent, mais toi tu les connais. Merci pour les textes de ta parole qui nous présentent de manière franche et sans fard la souffrance et la manière dont toi tu accueilles cette souffrance et ces lamentations. Merci pour ces textes qui nous rappellent aussi que l'épreuve n'est pas l'épreuve qui aura le dernier mot. Mais c'est bien toi. Toi, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour qui manifeste sa recette, cet amour fidèle, bienveillant et actif. Nous te prions pour ces frères et sœurs, nous te prions pour qu'ils soient délivrés de l'épreuve qu'ils traversent. Nous te prions pour que nous, en tant que communauté, nous puissions intercéder, accompagner, soutenir. Nous te prions pour que chacun, chacune ici, nous rappelions, jour après jour, heure après heure, que tu es un Dieu qui est plein de compassion, plein de cet amour que tu as manifesté envers David et que tu veux manifester encore aujourd'hui et pour la durée des temps. Amen.
Merci Jeff, c'est le temps des annonces. Cette semaine, donc il y aura toutes les réunions.